manger du saumon avec des épinards à la crème.
La gaulière, c'est une tourte avec un fond de maroilles.
Europe 1, 11h, 12h30, la table des bons vivants.
Eh bien, c'est génial le maroilles. Non, ça sent pas fort. Ça sent bon.
Ah, oh, alors là, attention, je dirais qu'il y a autant de recettes de quiche Lorraine qu'il y a de grand-mère.
Laurent Mariotte.
Du goût encore et toujours. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux d'être en votre compagnie avec ma bande sur Europe 1 jusqu'à 12h30. Des asperges, des fraises, des pommes de terre nouvelles. Nous allons cuisiner le printemps avec ma bande. Nouvelle star de la pâtisserie française, le flan pâtissier, vous avez vu, il est partout. Des vitrines de pâtisserie aux cartes des plus grands palaces. On va décrypter cette flanmania. Et nous avons, chers auditeurs d'Europe 1, la recette, oui, inratable pour vous. Vous pourrez le réussir comme ça à la maison, ce flan pâtissier. Et puis l'acteur Arnaud Ducret nous rejoint pour le plat du jour. Voici mes bons vivants. Elle a quitté sa cuisine lyonnaise pour partir à la cueillette de l'ail des ours. Elle va nous aider à cuisiner cette plante sauvage de saison. C'est Sonia Esgulian. Bonjour Sonia.
Bonjour Laurent.
Ça va bien ?
Oui, très
grand
bien.
Grand succès de votre pince à gigot la dernière fois.
Ah oui, j'ai eu plein de messages. Merci, merci, merci beaucoup.
Merci pour votre fidélité. Il nous aide à constituer notre cave. La preuve, il a dégoté le vin rouge idéal pour les beaux jours. Rien d'étonnant. C'est Olivier Pouls qui est dans la place. Bonjour Olivier.
Bonjour mon cher Laurent. J'en ai quelques bouteilles à votre disposition si ça vous intéresse.
Et la bouteille me fait de l'œil déjà. J'aime ce cépage.
Patience.
Et j'aime le taux d'alcool. Surprise, vous allez entendre dans un instant. En route les amis. Petit rituel, vous le connaissez, vous l'attendez. Et c'est vrai qu'il fait réagir chaque semaine ce goût de la semaine. Une adresse, une sensation, une recette, un produit. Chère Sonia, votre goût de la semaine.
Je voulais vous étonner avec ce petit carré enveloppé de papier d'or. Non, ce n'est pas un cube-or.
Ah, j'ai pas cru. Ça. Ah, c'est ça que vous m'avez dit. Je me dis, pourquoi il me met un bouillon magie sur mon studio.
Pas du tout, c'est un caramel à l'huile d'olive. Il y a quelques éclats de pistache et de la fleur de sel de Camargue. Je vous invite à goûter, c'est une ancienne manufacture.
Mais ça va me coller les dents, je ne pourrais plus
parler. Non, il ne colle pas du tout, justement.
Justement, une texture.
Le papier, il colle en tout cas.
Oh mais non, pas le ne caramel. Soyez pas taquin avec non, ce non, caramel
je vous écoute, je vous écoute.
J'aurais dû vous l'éplucher, voilà. C'était ça la solution. En fait, il est extraordinaire. La texture, n'est-ce pas, Olivier ?
Je vous confirme.
La texture est géniale et vraiment, le goût est incroyable.
Ah, oui. Ah, il est friable.
À l'huile d'olive. Oui, à l'huile d'olive.
Alors pour le et coup, ça, il est friable ça... comme un bouillon cube. Non mais c'est vrai.
Non mais il est très très bon parce que moi j'aime pas les caramels qui collent aux dents et qui vous empêchent de parler ensuite pendant
mais
une
ça,
heure.
Mais ça je trouve que ça a une texture incroyable. Et alors, évidemment on sent cette saveur délicate de la pistache et de l'éclat du sel de Camargue et ça je trouve ça magnifique.
C'est délicieux ça. Et vous avez trouvé ça où ?
Alors c'est à la caramellerie, c'est une ancienne manufacture à Man en Provence et si vous ne pouvez pas le trouver, vous tapez sur internet à l'épicerie Brémond et vous allez trouver tous ces produits magnifiques de Provence.
Olivier, votre goût de la semaine.
Eh bien, le goût de la semaine, en ce qui me concerne, nous emmène à Fécamp, où j'ai passé quelques jours, enfin dans la région en tout cas. Je suis d'abord allé visiter le musée de la pêche de Fécamp, qui est absolument remarquable. Et en sortant du musée, juste à côté, vous avez le marché aux poissons qui vous accueille. Alors, c'est du gros, du demi-gros, mais c'est ouvert aussi aux particuliers. Vous pouvez commander, vous pouvez acheter sur place. Vous pouvez même vous faire livrer, il y a un site internet. Et là, je me suis fait plaisir avec un beau plateau de fruits de mer. Langoustine, bulot, homard.
Et qu'est-ce qu'on a bu avec ça ?
On a bu un vin blanc, pas local, parce que du côté de Fécamp, on ne trouve pas grand-chose. Mais j'avais apporté dans mes valises quelques vins de Chablis. Et, je trouve que les Chablis, avec ce côté vous savez, très minéral, parfois un peu salin d'ailleurs, ça se marie très bien avec les plateaux de fruits.
Alors, chers auditeurs d'Europe 1, il faut que je vous fasse une confidence. Je connais Olivier Pouls depuis 30 ans. Et c'est la seule personne que je connaisse qui se balade avec une petite mallette, une sorte de Bézanville, qui permet de mettre des bouteilles à l'intérieur. Et je vous promets que c'est vrai, parce qu'elle est incroyable, cette mallette. Ouais.
Voilà. Et ça ressemble en fait à une mallette de transport de boules de pétanque.
C'est ça ?
Mais il n'y a pas de boules de pétanque à l'intérieur.
Il y a des belles quilles.
Il y a des bouteilles.
Il y a de belles quilles à l'intérieur.
Et je sais que vous lorgnez sur ma mallette.
Mais je vous promets que je suis jaloux à chaque fois que je vous vois. Je me dis, c'est génial ça, j'adore cette idée.
On peut en mettre deux.
Vous allez en voyage avec lui, il peut perdre sa valise et son ordi, mais attention,
mais la
mallette à bouteille, oh là là, c'est sacré cette histoire. Mon goût de la semaine, il n'est pas loin de Fécamp, puisqu'on le pêche du côté de Fécamp aussi, c'est le maquereau. J'adore ce poisson gras. Et j'ai fait l'autre jour pour l'émission de Bruce Toussaint sur TF1 pour la matinale Bonjour, j'ai fait des maquereaux au vin blanc. J'ai fait ça chez moi, c'est tout simple, de beaux maquereaux vidés et têtés par mon poissonnier, 9 euros le kilo. Hein.
C'est raisonnable.
C'est très très raisonnable. Il m'avait levé les filets, une belle marinade avec un bourgogne à ligoter, du vinaigre d'alcool blanc, des carottes, un bouquet garni, des rondelles de citron taillées très finement.
Des oignons ?
Des oignons, exactement. Je mets les maquereaux 3 minutes à petit frémissement, je couvre, je laisse refroidir et ensuite... Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça part une nuit au réfrigérateur, on se régale le lendemain. Et je vous assure que c'est délicieux.
Avec un petit écrasé de pommes de terre, par
mais
exemple.
Voilà, maquereau au vin blanc, redécouvrez ces poissons bleus.
La
vraie recette traditionnelle. Et ça, c'est un vrai souvenir. Ça me fait penser à mon grand-père quand il ouvrait une boîte de maquereau au vin blanc dans les Vosges. Et voilà, on n'avait pas des maquereaux facilement. Donc,
c'était la fête.
Et c'était la fête, exactement. Eh bien, c'est parti, les amis. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi pour une belle émission. On va cuisiner le printemps dans un instant. Votre recette de printemps,
Les petits pois. Les petits
Sonia.
Pois avec les oignons frais. En fait, je coupe les oignons dans le sens de la longueur. Je les mets dans la poêle avec un tout petit peu de beurre et un filet d'huile d'olive. Et je fais revenir tout doucement les petits pois, mais à peine cuits. Vraiment, il faut qu'ils restent encore un petit peu croquants. Les oignons aussi. Et bah ça, c'est une merveille.
Et vous, Olivier?
Le printemps, pour moi, c'est les morilles quand même que j'attends avec grande impatience tout au long de l'année. La saison est très courte. Alors, quand il y en a, j'en profite. Puis là, j'ai trouvé des morilles françaises, ce qui est assez rare. Elles sont plus charnues, elles ont un goût extraordinaire. Je me suis régalé.
Il y en a plein partout en Provence.
Les chercher ce week-end.
Au pied des conifères, elles sont.
Exactement. Et on rappelle que c'est au moins un quart d'heure, 20 minutes de cuisson. Ouais. Avant de les déguster,
soyons
sinon
là,
attention.
Une demi-heure, mais ça, il faut le redire.
Moi, je suis un inconditionnel du vin jaune et des morilles, de la crème et
dans
une pointe de moutarde.
Dans la petite mallette, du vin jaune
inconditionnel.
Oui, parce qu'il y a une glacière aussi, avec de la crème.
C'est la version été.
Et du beurre, exactement. Non, mais c'est vrai que les morilles, il faut les cuire minimum une demi-heure. On l'a dit il y a 15 jours déjà avec Yannick Aleno. Mais pensez-y, chers auditeurs d'Europe 1, et même quand vous allez au restaurant, si vous avez un doute, posez bien la question.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Merci d'être des nôtres, vous êtes ici chez vous, vous avez table ouverte tous les samedis de 11h à midi et demi sur Europe 1 avec la lyonnaise Sonia Esgulian ce matin et le belgo-bourguignon Olivier Pouls.
Oui, c'est vrai.
Un belge qui s'est installé en Bourgogne.
Qui vit un peu à Paris, enfin, un international de la gastronomie.
C'est beau. Bientôt un mois que le printemps est arrivé, chers auditeurs, et ça y est, vous l'avez vu, les légumes primeurs sont de sortie. Alors on le dit régulièrement à cette table, le sud est toujours plus en avance que le nord, mais ça y est, les deux régions commencent à se rapprocher là, on voit arriver les légumes nouveaux, et il a fait un petit peu chaud, absolument. Votre produit fétiche du printemps, Sonia?
Moi, ça reste le petit pois. Vraiment, pour moi, le petit pois, c'est le produit qui annonce le printemps, et ce que j'aime particulièrement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de le cuisiner très très peu cuit, parce que je trouve que la texture est vraiment géniale.
C'est un bonbon.
Alors ça peut être tout, ça peut être un petit risotto, on le met au dernier moment, vraiment une minute avant de mélanger avec le parmesan, ça peut être un petit bouillon léger avec des herbes aromatiques, ou alors un truc tout simple, je fais des tartines avec de la ricotta, et je pose les petits pois dessus.
Ça marche super bien.
Et ça, c'est
la menthe aussi, la menthe et le petit pois s'accordent très très bien. Olivier Pouls, votre produit incontournable, à part le beurre et la crème de printemps.
L'agneau, ça compte?
Bien sûr que ça compte.
Ah.
Bien sûr que ça compte, évidemment.
L'agneau, parce que c'est vraiment une viande de saison, l'agneau. Alors, on n'est pas encore du tout sur les agneaux des présalés, etc., qu'on aura beaucoup plus tard. Ça, c'est vraiment le premier agneau de printemps, ce qu'on appelle les agneaux à laiton, les agneaux de lait, les petits agneaux. Ça a quand même une saveur absolument incroyable. Alors, il y a le gigot, mais il n'y a pas que le gigot dans l'agneau. Il y a plein d'autres morceaux qui sont absolument délicieux. Il y a l'épaule. Quand on est un peu moins nombreux, c'est quand même vraiment bon. C'est un peu plus gras. Une épaule d'agneau confite, j'adore ça. Et puis, les petites côtes au barbecue.
Magnifique. Et l'épigramme
Et l'épigramme, qui est un morceau un peu gras aussi. Mais qui, du coup, quand il est bien snacké, il est très croustillant.
Et même
il a
rôti. Je l'ai fait rôti l'autre jour au four pendant 50 minutes à 180 degrés avec des belles têtes d'ail comme ça qu'on coupe en deux. Ça fond, le gras vient nourrir l'ail et vous servez ça avec des mojettes ou des flageolets. C'est délicieux.
Et alors, dans les Vosges, vous, c'est quoi votre produit fétiche du printemps?
Le produit fétiche, c'est la fleur de pissenlit.
Ah, oui.
On en fait de la confiture.
Ah, oui.
Ouais,
oui,
confiture
oui.
de fleurs de pissenlit. Ça a la même texture que le miel et je trouve ça délicieux, ça.
C'est
beau,
poétique, c'est
tout
joli.
Jaune,
oui.
voilà. C'est... Et puis après,
c'est vrai que ça se mange.
Ça devient des petits parachutes, on souffle dessus. Alors, chers auditeurs d'Europe 1, racontez-nous, tiens, vous, votre produit de printemps sur les réseaux sociaux et sur le groupe Facebook des bons vivants. Et pendant ce temps-là, tiens, direction l'Alsace, c'est le marché Robertsau à Strasbourg. Mélina Fachin, la correspondante d'Europe 1 dans la région, vous le savez, eh bien, elle a baladé son micro pour savoir si les produits de printemps vous inspirent.
Bonjour madame, comment allez-vous? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? On commence à avoir les premières asperges d'Alsace. On a des belles asperges vertes qui viennent du midi.
Tout simplement à la vapeur avec après un petit accompagnement s'il faut, mais le produit basique.
Avec une bonne petite vinaigrette?
Voilà, tout à fait.
Avec du moutarde, de vinaigre balsamique et huile d'olive.
Avec un peu de sucre dans l'eau, on a essayé hier soir et c'était bon.
Les radis rouges, les radis roses. Je voulais acheter des bottes de carottes mais j'arrive trop tard au marché donc j'ai les carottes d'hiver. Mais c'est pas grave, ça fera quand même une très bonne salade de carottes.
J'ai vu les fraises, elles ont l'air délicieuses. Elles sont à 7,50€. Non, j'attends la saison. C'est encore un peu tôt, c'est trop cher.
Ah, j'adore la compote rhubarbe fraise. C'est excellent, les deux vont très bien ensemble.
Moi je la fais par le biais des tartes uniquement.
Meringuée ou pas?
Alors meringuée je la mange à l'extérieur parce que je la fais pas moi-même. Ben, ça fait partie des signes du printemps. Hein. C'est le soleil, les oiseaux qui gazouillent, les fraises sur les étals, la rhubarbe qui arrive. Ben, tout ça, ça annonce effectivement un changement de saison. J'adore.
Merci beaucoup, excellente journée.
Salut monsieur, dame. N'oubliez pas votre monnaie. C'est vrai que 7,50€ les fraises, ça tabasse un petit peu. J'espère que c'est les 500 grammes au moins, mais pas la barquette de 250. Quand même pas.
Et c'est vrai que les fraises, on les a quand même de plus en plus tôt. J'avoue que je trouve que c'est pas encore vraiment le cœur de la saison.
Hein. Mais à partir de mai, voilà.
Ça donne envie, voilà. Mais je suis un peu frustré.
Alors, un petit truc, tiens, chers auditeurs d'Europe 1, vous êtes sur le marché pour savoir si vous avez des bonnes fraises devant vous. Il faut les sentir. Mmh. Il faut vraiment qu'elles embaument la fraise. Si elles ne sentent rien, alors là, vous passez votre chemin. On a parlé des radis roses aussi sur le marché de Strasbourg. Vous avez déjà croqué dans le radis rose pour ce printemps?
Oui, j'adore. C'est vraiment un de mes produits fétiches. On échangeait tout à l'heure avec Olivier, on disait qu'on adorait le radis aussi cuit. C'est très très bon sauté, par exemple, les radis, je parle de la racine, hein, la racine sautée avec des pâtes. Et quand on a les fans, très beaux fans, quand on a acheté des beaux radis, on peut faire un pesto ou simplement on les mixe avec un peu d'huile d'olive, ça fait une huile verte bien vif.
C'est bon ça.
Pardon, et on déguste ça avec les pâtes.
Et un peu piquante hein, parce
exactement.
Que la fan de radis.
Ouais, ça râpe un peu comme une belle roquette,
oui,
par exemple.
Exactement, il y a ce côté
top.
Poivré, ouais. Oui, il faut rien jeter quand ils sont.
Le radis, en revanche, quand on le cuit, il perd totalement son côté piquant. Il devient très doux.
Et sa couleur aussi.
Mais ça, c'est assez intéressant.
C'est un cousin du navet, hein, d'ailleurs. Hein,
absolument.
Donc c'est pour ça qu'on peut le cuire comme ça, rôti dans un petit peu de beurre pour accompagner un magret ou une volaille. Ça marche bien. On ferait une volaille rôtie tout à l'heure sur les coups de midi avec un jeune chef qui viendra cuisiner pour Arnaud Ducré qui vient nous voir en copain après le succès de Mercato sur TF1. Les asperges, ça y est, elles sont là.
Oui.
On commence à avoir de belles promos. Hein. Moi, je vois les prix qui baissent sur les asperges dans nos régions. Une recette qui change de la sauce vinaigrette ou de l'hollandaise?
Moi, la flamande, mes origines belges, c'est des œufs durs qui sont coupés en petits morceaux, de l'huile d'olive, un peu de vinaigre, de la ciboulette. Et en général, en Belgique, on mange plutôt de l'asperge blanche plutôt que de la verte. Et ça accompagne remarquablement.
C'est un peu comme une gribiche, votre
c'est
histoire.
C'est un peu comme une gribiche, mais simplifiée, on va dire.
Ah, c'est bien, ça. Ah oui.
Vous les aimez. Une gribiche déstructurée.
Sans tous les éléments.
Les Belges, ils font jamais comme tout le monde.
Il n'y a pas de cornichons dedans, par exemple.
Ah, voilà.
et vous,
moi,
les asperges...
j'aime bien avec des tout petits dés de chorizo. Je fais revenir le chorizo et je mets les asperges au dernier moment, un peu croquantes. Et là, voilà, ça fait un goût tout simple.
Vous les rôtissez avec le chorizo. Ah, c'est bien.
Ah,
elles doivent prendre une belle couleur en
oui,
plus.
Oui, puis on met une petite herbe, un peu d'estragon pour réveiller un petit peu tout ça et c'est super bon.
Et du parmesan aussi, ça marche bien. L'asperge
Et le parmesan.
Faites un cacio e pepe, par exemple. Une sauce cacio e pepe sur les asperges, c'est super.
La sauce cacio e pepe, c'est avec du pecorino râpé, du beau poivre. Voilà. Et bien, vous retrouverez ces recettes en vous abonnant, vous le savez, chers auditeurs, à la newsletter. Ça se passe sur Europe 1. C'est gratuit. Et chaque dimanche, dans votre boîte mail, et bien, vous recevez nos adresses et nos conseils, la belle sélection de la table des bons vivants. C'est de jouer, ça y est, avec un bruit de cuisine qui est nouveau depuis la semaine dernière. Aujourd'hui, Europe 1 vous offre une cave à vin, la Sommelière. C'est la marque française, vous savez, qui accompagne depuis plus de 30 ans les professionnels de la restauration. Écoutons ce bruit de cuisine. Ah,
ça me file la chair de poule.
Je n'aime pas ça du tout, ça grince.
Ça me donne la chair de poule. Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Un truc qui couine un petit peu, vous avez trouvé, chers auditeurs ? Alors pour jouer avec nous, c'est simple. Vous envoyez un SMS avec le mot cuisine au 739-21, 3 fois 75 centimes, plus le coût du SMS.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble et à table jusqu'à midi et demi avec notre cuisinière lyonnaise Sonia Esgulian et Olivier Pouls, le spécialiste du vin. On s'intéresse à un dessert phénomène ce samedi matin et pourtant c'est un grand grand classique de la pâtisserie française, c'est le flan pâtissier. Il y en a un avec nous ici au studio Coluche, on va en parler dans un instant avec notre invité. Mais en attendant, tiens Sonia, je vous vois lorgner
sur ce
flan. Vous l'aimez comment, le flan pâtissier ? Qu'on appelle aussi le flan parisien, on va en parler.
Alors moi je l'aime avec une pâte brisée plutôt que la pâte feuilletée et bien bloblotant. J'aime pas quand la garniture,
est trop dense.
La crème pâtissière est très dense et trop cuite.
D'accord.
Moi j'aime bien quand ça bloblote. Et là ce que je trouve magnifique, c'est aussi la belle coloration sur le dessus.
Ah, le gratiné.
Parce que j'adore la petite peau. Je trouve ça magnifique.
Et vous, Olivier ?
Mais moi, j'ai toujours adoré ça. Et puis, c'est vrai que pendant des années, ça a disparu de la circulation. On n'en trouvait plus, ou en tout cas des flans de mauvaise qualité dans les boulangeries, probablement avec des produits industriels. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais depuis, vous l'avez dit, depuis 4-5 ans, c'est de la folie.
Il y a une tendance.
Et je suis heureux de ça parce que j'adore le flan.
Et dans tout le pays.
Et surtout, moi, je suis très classique. C'est celui à la vanille qui a ma préférence, même si on va en parler, ça se décline de plus en plus.
Alors, nous avons effectivement constaté un engouement incontrôlable pour cette pâtisserie. Et pour en parler avec nous, un passionné du flan pâtissier, c'est Julien Chamallow. Bonjour Julien.
Bonjour.
Bonjour Julien.
Merci d'être des nôtres. Vous êtes l'auteur de deux très beaux livres, références sur le sujet. Le premier s'appelle « Les flans pâtissiers, 50 recettes de flans classiques et créatives aux éditions de La Martinière ». Et là, vous venez de sortir « Les flans de pâtissiers », c'est l'acte 2, le tome 2 de votre livre, avec de belles recettes de flans originaux d'ici et d'ailleurs, toujours aux éditions de La Martinière. Vous n'êtes pas pâtissier de formation, hein, vous êtes venu à la pâtisserie notamment pour ces livres. On va parler des origines du flan justement, c'est intéressant. Déjà, on va rappeler la définition du flan pâtissier et de sa recette, les ingrédients qui composent ce flan. Racontez-nous, Julien Chamallow.
Oula, le flan, en fait, pour faire un super bon flan, c'est pas très compliqué, il faut des bons ingrédients. Un bon lait entier, une bonne crème liquide.
Entier, pas demi-écrémé.
Non, hein, pas voilà. Ah non, on rigole pas.
Il faut qu'il y ait du goût, exactement.
On est d'accord.
Le gras, c'est la vie.
Mais évidemment, mais j'insiste, justement.
Et une crème liquide aussi entière avec au moins minimum 30% de matière grasse.
Oui.
Donc de la fécule de maïs.
Pour la maïzena, voilà.
Oui, la maïzena.
Des bons œufs de ferme.
Oui, tout à fait, Julien. C'est de bons œufs, de bons œufs frais. Alors, si c'est des œufs de ferme, c'est encore mieux. Et bon, bien sûr, pour la gourmandise, un peu de sucre et puis de la vanille.
Ben voilà, donc des ingrédients,
ingrédients
basiques,
classiques,
de qualité,
tout à fait.
Et voilà. Et après la pâte, il y a tout un cérémonial autour de la pâte.
Oui, tout à fait.
Feuilletée ou brisée alors pour vous ?
Alors pour ma part, moi j'aime bien la pâte sucrée parce que la pâte sucrée, elle est, on sent le contraste avec l'onctuosité du flan, donc le côté croquant. On a bien le contraste avec le flan, la crème du flan. Quoi.
Oui, la pâte sucrée, ça ressemble un petit peu à une pâte sablée,
fait.
Hein,
avec un peu moins de beurre.
Mais voilà, elle est un peu moins friable, du coup, elle a plus de tenue
la
cuisson.
Après, c'est mon goût. Après, les goûts de chacun changent. Donc, ça va très bien aussi avec une pâte feuilletée, ça va très bien avec une pâte sablée, une pâte brisée. Tout est possible. En tout cas moi, je l'indique dans mes livres. Avec les différentes recettes de pâtes.
On va en parler parce qu'il y a plein de déclinaisons. Sonia Esgulian, pourquoi on en fait tout un flan alors de ce dessert ?
Mais je pense que justement, on disait pourquoi c'est revenu sur le devant de la scène, je pense parce qu'on avait besoin de réconfort. C'est vraiment le dessert qui fait du bien, la petite transgression, parce que là, on sait que c'est très gourmand, c'est onctueux. Et puis, ça nous rappelle beaucoup de choses de notre enfance, parce qu'on a tous eu la petite boulangerie de quartier qui proposait ce genre de flan qui était très bon. Alors, effectivement, après, il y a eu une partie industrielle qui n'était pas terrible.
Oui, mais c'est vrai qu'on en a vu beaucoup dans les boulangeries-pâtisseries, on en trouve encore.
Oui, en sachet,
avec la poudre de flan, oui.
Mais quand même, ces flans-là, ça représente une recette un peu boulangère, pas trop sophistiquée. Pour moi, c'est la recette pas sophistiquée qui fait du bien. Et je pense que ça, c'est le vrai secret du renouveau du flan.
Ce qui est étonnant, Olivier, c'est que malgré son succès dans les pâtisseries françaises,
quand on s'y intéresse, et vous le dites dans votre livre, Julien Chamallow, il ne serait pas français, ce flan.
Non, il serait anglais. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas tout acheté, visiblement, dans la cuisine anglaise. Ils peuvent, de temps en temps, avoir un petit éclair de
fulgurance. On salue nos amis anglais qui nous écoutent.
Oui, ce serait une préparation du 14e siècle qui aurait été servie lors du couronnement d'Henri IV, Henri IV d'Angleterre. Hein.
C'est ça.
Pas le nôtre.
Oui, oui.
Et puis, il a voyagé, et voilà, il y avait de quoi s'inspirer dans cette belle création. Probablement, la recette était assez éloignée quand même de ce qu'elle est aujourd'hui.
Alors, soyons sympas, parce que quand même, les Anglais, ce sont eux qui sont les rois de la tourte, et c'est pas étonnant que le flan soit né chez eux.
C'est vrai, absolument.
Franchement,
vous avez raison.
Je pense qu'on doit leur rendre hommage. Ils sont très, très forts.
En paille. Alors, on va déguster, on va commenter votre
beau flan. Regardez
tous
ces petits points de vanille, là.
Exactement.
C'est magnifique.
C'est
magnifique.
Ça, voilà. On a une part qui est tranchée ici. Au studio Coluche, il y a plein de petits grains noirs de gousses de vanille, des œufs, du lait, de la fécule de maïs. Alors, la pâte, c'est une pâte sucrée, vous avez fait, hein?
Tout à fait, une pâte sucrée, oui.
Elle est magnifique. Cuisson à blanc ou cuisson tout le monde en même temps?
Tout le monde en même temps. Dans mes recettes, je donne une cuisson à tout le monde en même temps, pâte et crème.
Combien de temps de cuisson?
Ça dépend du four, enfin, ça va entre 30 et 35 minutes.
Donc, voilà. On fait la pâte, on fonce son moule.
Tout à fait.
Alors, pas n'importe quel moule, parce qu'il faut que ce soit un moule à charnière amovible.
Alors, oui, c'est mieux. Alors, il faut que le flan, je l'aime bien épais. Donc, il faut un moule, oui, à charnière, ou alors un cercle à pâtisserie. Voilà. Qui soit haut, à minimum 4,5 cm, jusqu'à 6 cm.
Ah, oui, il est vraiment très bon.
Je viens de manger une bouchée, c'est dingue, parce que la pâte se confond avec la garniture et il y a l'onctuosité qui rencontre la pâte sucrée, c'est vraiment délicieux. Alors ensuite, on fait ce mélange de l'appareil. Racontez comment on fait bien le mélange, parce qu'il faut faire chauffer, hein. Il y a des œufs.
Oui,
et du sucre.
Il y a plusieurs étapes. Enfin, c'est pas très compliqué. Il y a une étape où on fait chauffer le lait.
Oui.
Et on mélange. Alors une autre partie où on mélange les œufs avec le sucre. On rajoute la maïzena, on mélange tout ça aussi. Et notre lait qui a chauffé. Alors, une petite astuce quand même, c'est que mon lait, je ne le fais pas bouillir.
Oui, juste chauffer.
Juste chauffer, un premier frémissement. Je verse ce lait chaud dans mon mélange précédent. Mm-hmm. Et je mélange tout ça. Et puis, hop, on reverse ce mélange lait, œuf, sucre, etc. dans la casserole. Et on repart en cuisson.
Comme une crème pâtissière.
Tout à fait, comme une crème pâtissière. Oui. On la cuit un peu moins longtemps que la crème pâtissière parce que notre flan va repartir en cuisson dans le four après.
Redites combien de temps au four ?
Enfourné à peu près 30 à 35 minutes. Il y a notre mélange lait, œuf, sucre, maïzena. On repart en cuisson en casserole. Donc là, on mélange notre crème va commencer à s'épaissir. Une autre petite astuce, c'est que quand on fait ce mélange-là, il y a une petite mousse qui se forme. C'est l'œuf et le lait, le mélange œuf-lait, il y a une petite mousse qui se forme. Donc on mélange, on fouette et notre mousse va commencer à disparaître. Et notre appareil va commencer à s'épaissir. Là, on sait que notre flan va être prêt. Et donc, hors du feu, et c'est maintenant que je rajoute la crème liquide.
Ah oui, vous baissez tout en température,
voilà,
vous mettez
tout
la crème.
Tout à fait, parce que si on enfourne cet appareil encore chaud dans le four, si on le cuit directement, notre flan risque de déborder.
Et voilà, c'est tout un art, hein, la pâtisserie. Hein.
Là, le fait de rajouter cette crème liquide froide après, avant d'enfourner, ça nous permet de baisser en température notre appareil.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants, Laurent Mariette.
On se régale au studio Coluche avec le flan pâtissier apporté par notre invité Julien Chamallow, auteur de Flan de pâtissier aux éditions de La Martinière. Alors, on parlait de votre pâte qui est une pâte sucrée qui est complètement dingue. En quelques mots, les ingrédients qui composent cette pâte, Julien?
Alors, une pâte sucrée, enfin, ma pâte sucrée est un peu spécifique parce que moi, je mets du sucre vergeoise à la place
du sucre du Nord.
Tout à fait.
Et donc, alors, de la farine?
Oui, alors oui. Alors, là, il faut de la farine, de la poudre d'amande. Ou de poudre d'amande, enfin, ou une poudre de fruits à coque. Mais voilà, et puis un peu de beurre et du sucre, donc je disais, et puis des œufs.
Vous la laissez reposer avant de l'étaler?
Oui, enfin, on mélange tous ces ingrédients-là et je la laisse reposer. Alors, le mieux, c'est de la laisser reposer au moins une nuit au frigo, avant de l'étaler.
Voilà. Oui, il faut qu'elle se détende, voilà.
Tout à fait. Hein. Comme on va la travailler, il y a le gluten, le beurre, etc. Donc, il faut la laisser se reposer un peu.
Alors, tiens, à propos de la pâte, le flan pâtissier, vous l'aimez avec pâte ou sans pâte? Parce que c'est un grand débat, et je ne sais pas si vous le voyez chez votre boulanger pâtissier, chers auditeurs d'Europe 1, mais on voit maintenant de plus en plus, à côté de la part de flan pâtissier, des flans pâtissiers sans pattes, hein, qui sont tout simplement nues. Si
oui,
je puis
c'est,
dire.
Ce qu'on, c'est ce qu'on faisait, on appelait ça bêtement un flan, et oui. C'est l'appareil en réalité qu'on met dans un moule classique et qu'on mange en général avec du caramel.
Oui, ça ressemble un petit peu
c'est
à la crème caramel.
Là, oui.
C'est un peu dans cet esprit-là.
Ouais, pour moi, c'est, je ne comprends pas l'intérêt, mais je ne vois pas. Pour moi, c'est vraiment, ben la si. Pâte apporte eh. Vraiment quelque
ouais,
chose.
Oui, mais quand on est allergique au gluten, paf, on a sa part
vrai.
De flan.
Ouais.
C'est pas
vrai.
Mal, ça.
Moi, c'est vrai, c'est pas mal.
Est-ce que vous savez d'où vient l'expression « c'est du flan » ?
Non.
Ça n'a rien à voir avec ce flan-là. Au XIe siècle, le flan, c'était le métal dans lequel on frappait la monnaie.
Ah,
et on disait, c'est
joli.
Pas du flan, donc ah, c'était oui. pas le, le bon métal.
La différence, est-ce que vous connaissez la différence entre le flan pâtissier et le flan parisien, Julien Chamallow ?
Oui, le flan pâtissier, c'est celui qui est fait sans pâte, et le flan parisien, c'est celui qui est une pâte.
Voilà, c'est ça.
Ce qui est contre-intuitif, parce que oui. pâtissier, pâte.
Alors, on s'attend à ce qu'il y ait de la pâte, mmh. exactement, mais donc on en revient toujours à notre histoire de flan sans pâte. Un autre pro du flan est avec nous à l'instant au téléphone, c'est Giovanni Bianco, lauréat 2019 du meilleur flan de Paris et d'Île-de-France. Il est avec nous, c'est le boulanger de la boulangerie contemporaine rue Chardon-Lagache à Paris dans le 16e. Bonjour Giovanni.
Bonjour Laurent.
Comment est-ce
bonjour.
Tout va bien et tout ?
Eh ben on va bien, tout le monde va bien. Qu'est-ce que vous aimez tant dans le flan alors ?
Ah, moi le flan c'est un produit d'enfance que j'ai avec ce produit qui est vraiment un produit qui est vraiment essentiel à la boulangerie aujourd'hui, qui est vraiment qu'on mangeait petit avec ça en marchant dans la rue, un produit simple à manger, c'est un peu comme un éclair, c'est un produit qui est vraiment pro la boulangerie.
Vous êtes tombé dans le flan quand vous étiez petit, un petit peu comme Obélix, hein, Giovanni.
Exactement, très petit, très petit. Mmh. C'est une passion depuis toujours. Mais pour moi, le vrai flan, c'est le flan avec pâte. En
ben
tout
oui.
cas, pour moi, c'est le flan avec pâte.
Ça, c'est délicieux. Alors, je l'ai avec nous au sud de Coluche,
ouais, on l'a,
votre
oui.
flan. Alors déjà,
parfait.
Au nez...
Très crémeux.
Très crémeux. Et au lait, on a tout de suite cette belle odeur comme ça de lait, mmh. de crème qui vient nous chatouiller les naseaux. Vous faites la même technique que Julien qui est avec nous en studio ou c'est autre chose, votre appareil, vous ?
Ben, moi, j'ai pas la crème après.
Ouais.
Moi, en fait, je fais ma séparation. Je fais mes œufs et mon sucre d'un côté et ma maïzena que je mélange. À côté, je mélange du lait et de la crème avec du sucre à
mmh.
bouillir.
Mmh.
Quand ça bouge, je mélange une partie de mon lait et ma crème chaude dans mon mélange premier. Et après, je mets tout ensemble dans la casserole à bouillir. À partir de ce moment-là où ça boue, ça commence à épaissir, je le mets directement à foisonner à la feuille dans un batteur pour pouvoir le détendre au maximum.
La feuille, c'est ce qu'il y a dans le batteur pour
c'est
pouvoir
voilà,
bien
c'est
mélanger.
Crochet, c'est voilà. Et en fait, ça permet de pouvoir détendre la fécule de maïs. Et de vraiment délier le flan et le rendre plus onctueux.
Alors, il sent bien la vanille, le vôtre, mais je vois pas de petits grains de vanille. Comment vous faites pour ça ?
Bah, en fait, moi, j'ai une pâte de vanille d'Italie, où en fait, c'est de la vanille naturelle, mais j'ai pas les grains dedans.
Ah, d'accord, ah, elle oui. est en forme de pâte. Malin, ça.
Voilà, c'est une pâte que j'incorpore à l'appareil à flan.
Et à propos de pâte, exactement. La vôtre aussi est différente de celle de Julien Chamallow. C'est ça que j'aime avec le flan.
Et l'épaisseur
c'est qu'il y a plein de...
aussi, c'est
et l'épaisseur n'est pas la même. Vous utilisez quelle pâte ?
Moi, c'est une pâte feuilletée.
C'est ça, hein.
J'ai toujours appris comme ça, donc j'ai toujours fait pâte feuilletée sur le flan.
Vous le vendez en voilà. entier, hein, le flan, c'est ça, hein.
Exactement. Je le vends entier à la part.
Combien?
La part de flan est à 3,50€.
Oui.
Et le flan de 4 personnes est à 15€.
Eh ben, merci Giovanni Bianco. Voilà, il est délicieux, votre flan. Et je peux vous dire qu'il est en train de partir à vitesse grand V ici, au
ouais,
studio.
C'est super.
Coluche. Et on peut donc aller le découvrir dans votre boulangerie contemporaine, 49 rue Chardon-Lagache, à Paris, dans le 16e. Et je crois que Arnaud Ducré, qui est notre invité tout à l'heure, vient déguster du flan chez vous de temps en temps.
Exactement. Avec Arnaud, ouais, c'est un grand passionné du flan. Il vient également chez moi souvent pour pouvoir en manger, effectivement.
Je vous promets qu'on lui en garde une part, hein. Et je vais dire la vérité aux éditeurs d'Europe 1, c'est Arnaud qui m'a dit, il faut absolument que tu goûtes le flan de Giovanni. C'est ce que nous avons fait avec toute la bande et on n'est pas déçus. Merci d'avoir été avec nous au téléphone,
merci
Giovanni.
Merci beaucoup. À bientôt.
Et vive ouais. le flan. Alors, la force du flan et son pouvoir de séduction sont immenses, c'est vrai. Et il se décline, c'est ça qui est intéressant aussi. Coco, chocolat, café, pistache. Vous en parlez dans votre livre, Julien Chamallow.
Oui, tout à fait. Oui.
Alors, il y en a un qui a retenu l'attention de Agnès Vaudin, qui est notre programmatrice, qui cuisine beaucoup, c'est le flan cookie, où la pâte du flan est une pâte à cookie aussi.
Tout à fait, c'est ça. Donc je fais à la place de ma pâte sucrée ou une pâte feuilletée ou brisée, c'est une pâte à cookie.
Ça c'est malin ça. Pistache aussi ?
Pistache, oui, avec de la pâte de pistache ou même du praliné pistache, c'est possible, oui.
Manque passion, le mojito, voilà, donc c'est pour le vanille café, le caramel beurre salé, l'ultra chocolat, c'est lequel votre préféré ?
J'en ai 100 préférés, donc ouais, comment ça va être un peu compliqué. Mais alors moi, vraiment mon préféré, celui que je pourrais en manger tout le temps, c'est vraiment celui à la vanille, le classique.
Le vrai classique.
Le vrai classique, tout à fait.
Quelques adresses avant de jouer avec notre bruit de cuisine pour les auditeurs d'Europe 1. Adresse en région et adresse à Paris.
Alors Sonia. Pour moi, en région à Lyon, les artistes, une petite boulangerie de quartier, une à la Croix-Rousse, une rue Béchevelin dans le 7e, un flan magnifique à la vanille.
À 300 mètres d'Europe 1, comme ça je pourrais aller en chercher un tout à l'heure. Ça s'appelle Paris & Co. Il a gagné aussi le concours du meilleur flan d'Île-de-France. C'est 4 rues de la Convention.
Ouais, on l'appelle le flan gagnant d'ailleurs. C'était en 2021. Julien Chamallow, une adresse pour déguster de bons flans.
À Marseille, j'aime beaucoup celui de Bricoleur des Douceurs.
Ah ben voilà, et à Bordeaux, Pierre Mathieu aussi, le pâtissier bordelais qui est place Péberlan. Voilà, chers auditeurs d'Europe 1, vous retrouverez ces adresses en vous abonnant à la newsletter et je rappelle vos livres Flan pâtissier aux éditions de la Martinière, Julien Chamallow.
Tout à fait.
Merci et bravo pour ce flan de compétition, vraiment.
Merci à vous.
C'est l'heure de jouer avec notre bruit de cuisine sur Europe 1. Nous vous offrons une cave à vin, la Sommelière. La Sommelière, vous le savez, c'est la marque française qui accompagne depuis plus de 30 ans les professionnels de la restauration. Eh bien, elle vous propose cette jolie petite cave à vin LS18 Silence de 18 bouteilles, de faible encombrement et ultra silencieuse. Et nous avons Sylvie au téléphone. Bonjour Sylvie.
Bonjour, bonjour Laurent et bonjour les bons vivants.
Bonjour Sylvie, vous nous appelez d'où ?
Alors, je vous appelle du Piémont Pyrénéen, d'un petit village de 80 habitants qui s'appelle Païssous, entre Tarbes et Toulouse.
Oh, bah une très belle région. C'est vrai que nous avons...
Voilà, le soleil.
On est gâtés hein, dans ce pays. On écoute le bruit de cuisine, Sylvie.
D'accord.
Il faut vite que les gens trouvent le bruit. Ça fait trop mal.
Ça fait la chair de poule. Alors, Sylvie, à quoi pensez-vous ?
Alors, moi, je pense à un bruit... Alors, un ballon de baudruche... de faire un nœud sur un ballon de baudruche, comme il y a eu l'époque là, de Pâques, pour faire des coquilles de chocolat ou bien faire des coques avec des meringues.
Ah oui, et
ah oui c'est vrai.
Dégonfle.
Oui, et puis après on le dégonfle. Oh, c'est voilà. Dis donc, c'est malin et c'est technique. Mais c'est vrai qu'on est dans la technique avec la pâtisserie ce matin.
Ça pourrait avoir
un rapport avec notre dossier du jour, de la précision et de la technique. Malheureusement, ce n'est pas ça, ma chère Sylvie.
Bon, c'est décevant.
Oui, mais non.
Ce bruit de ballon, là, c'était...
Ah oui, mais vous confirme, ça sonne bien.
Ça couine comme un ballon. Vous n'avez pas tout perdu. Je vous envoie les deux livres de notre invité, Flan pâtissier et Flan de pâtissier aux éditions de La Martinière, de Julien Chamallow.
Vous m'envoyez ravi. Merci. Et s'il peut avoir une petite dédicace, je serai encore plus heureuse.
Il est là. Il n'a pas fini son flan. Il va vous signer le livre. Hein, Julien ?
Oui, tout à fait, avec plaisir.
J'adore.
On vous glissera une part dedans.
On vous embrasse, Sylvie.
Je monterai à Paris les chercher.
Mais
merci
oui,
beaucoup.
On est là, tous les samedis.
Avec plaisir.
Avec plaisir.
Merci beaucoup. C'est trop chaud. Merci beaucoup.
C'est gentil, Sylvie. Merci pour votre fidélité.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Le plat du jour se rapproche. Mais juste avant, nous accueillons avec Sonia Esgulian et Olivier Pouls notre camarade Marion Sauveur.
Bonjour à tous.
Bonjour Marion. Alors Marion, on fait le point avec vous sur le projet de loi présenté la semaine dernière par le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture. On suit la crise agricole depuis le début. Il n'est pas question pour nous d'en parler quand c'est un petit peu à la mode et puis qu'on arrête d'en parler ensuite. On va suivre vraiment ce dossier. Et ce projet parle notamment de la transmission agricole, axe principal. Alors que se passe-t-il pour ceux qui veulent s'installer alors ?
Oui, c'est l'une des urgences puisqu'il faut rappeler qu'en 2019, plus de la moitié des agriculteurs avaient plus de 50 ans. Donc dans 10 ans, il y en aura une grande partie qui va partir à la retraite. Alors concrètement, ce projet de loi prévoit quoi ? De donner envie aux jeunes de se lancer dans l'agriculture. Donc avec des stages dans les lycées ou dans les collèges, ça c'est pour les plus jeunes d'entre nous. Et pour ceux qui se lancent, la création d'un nouveau diplôme, bachelor agro, qui va s'adapter à l'agriculture d'aujourd'hui. Alors ceux qui veulent s'installer, le projet de loi prévoit la mise en place d'un accompagnement individualisé, un nouveau service, France Service Agriculture. Il doit permettre aux agriculteurs qui veulent céder leurs exploitations d'être mis en lien avec les jeunes, les nouveaux qui veulent s'implanter, s'installer, accompagner dans leurs projets ceux qui s'installent et puis mettre en place des groupements fonciers agricoles d'investissement, ce qui va leur permettre surtout de lever de l'argent.
Et d'acquérir du foncier. Voilà.
Exactement, puisque les jeunes ont du mal avec les banques à accéder à des prêts. Donc ce groupement foncier agricole d'investissement doit leur permettre d'acheter les terrains et ensuite de leur agriculteurs loués.
Dites-moi, j'ai bien lu moi ce projet, cette loi agricole. Il n'y a rien au niveau de la rémunération, du juste prix et de la valorisation des matières que vendent nos agriculteurs et de leur rémunération. Il n'y a rien.
Oui, tous les gros sujets en fait ne sont pas du tout abordés dans ce projet de loi, ni les pesticides, ni effectivement la rémunération. La rémunération sera notamment abordée dans un autre texte, la loi Egalim 4.
D'accord.
Un projet de loi qui devra...
C'est pas un oubli, ça veut dire que ça va être traité.
Pas du tout. D'accord. En fait, l'objectif du gouvernement, c'est de faire passer ce texte. C'est un texte qui est gentillet, alors que la loi Egalim 4 va être en grosse discussion. Il y aura sûrement des amendements à l'Assemblée nationale, etc. Donc, en fait, il va être étudié à part et ce sera a priori d'ici l'été.
Eh ben, merci Marion Sauveur. Voilà, on veut vous tenir au courant, chers auditeurs d'Europe 1, parce que je le sais, vous êtes attachés à la provenance de nos produits, vous êtes attachés au métier de nos agriculteurs. Donc, on veut suivre vraiment ce qui se passe depuis cette crise agricole maintenant qui date d'il y a quelques mois, deux petits mois en fait, hein, c'est ça la crise agricole. Eh bien tiens, on va se promener à la campagne avec vous ma chère Sonia.
Allons dans les bois.
Mais oui, allons nous promener dans les bois et allons cueillir de l'ail des ours, à ne pas confondre avec les feuilles de muguet parce que ça ressemble.
Ah oui, ça ressemble énormément.
On adore
et puis c'est très dangereux, c'est toxique.
Ah oui, le muguet est toxique, pas l'ail des ours. On la trouve où alors ?
Alors, dans les sous-bois, dans les endroits un petit peu ombragés. Alors, la chose importante, comment on fait la différence entre le muguet, qui est les feuilles de muguet qui sont très toxiques, et l'ail des ours ? Ça ne sent pas l'ail. En fait, il suffit avec ses mains de froisser un tout petit peu les feuilles. Si on ne sent pas cette odeur d'ail, on ne touche pas ces feuilles, on ne les mange pas surtout, c'est toxique. Donc, l'ail des ours, on les cueille. C'est très fragile comme petite feuille, donc on va les consommer assez rapidement. On les apporte à la maison. Et comment on va les cuisiner ? Alors, j'ai deux techniques. J'aime bien les cuisiner, donc juste poêler, comme des épinards.
Ouais.
Ou alors, je vais rouler avec des petites escalopes de veau, faire des petites escalopes farcies.
Ah, comme
farcies.
Les petites saltimbocca italiennes.
Exactement,
italienne. Ah,
avec
bien, ça.
L'ail des ours. Je fais également un pesto, ça c'est magnifique, avec les pâtes, etc. Mais il y a un petit bout de cet ingrédient que j'adore, ce sont les fleurs d'ail des ours, ces petits boutons encore bien fermés, on va les faire vinaigrer. Alors, j'avais préparé une petite dégustation, j'espère que vous allez la voir
mais
en
la
temps
voilà,
réel.
Tiens, vous avez vu
la
un
voilà.
Peu comme c'est
oh
bien
là
fait.
Là, c'est trop
vous
bien,
en
le spectacle,
parlez, entre
le spectacle en temps réel.
On a un joli pesto, alors ça ressemble au pesto qu'on fait avec du basilic. Alors, ça embaume l'ail, forcément.
Ah bah, ça sent... Alors, ce qui est bien,
ah
c'est
oui,
que c'est fort.
Ça.
Après le flan, c'est
fort,
bien.
Mais sans...
Après les trois parts de flan, ça va vous faire digérer.
Oui, mais ça va vous faire beaucoup de bien, vous allez voir. Alors, les petites fleurs, elles sont vinaigrées avec des graines de moutarde que j'ai fait blanchir deux fois. On ajoute un petit peu de vinaigre de miel.
Ah, c'est bon ça.
On laisse deux petites semaines et ça avec une terrine ou un tartare,
comme
c'est magnifique.
Comme des pickles un petit
exactement.
Peu.
Exactement. Et
avec
vraiment,
des graines de moutarde.
Avec des graines de moutarde,
on
j'aime
en trouve
bien.
Facilement maintenant des graines
oui,
de moutarde.
Oui, les graines de moutarde blondes. Alors on les fait blanchir deux fois parce qu'il faut, les aider un petit peu pour la fermentation. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire donc des pots de petites conserves qu'on va garder très longtemps. Le pesto, ce qui est génial, c'est que ça reste au réfrigérateur, on met un petit peu d'huile et on le garde 15 jours, 3 semaines, aucun problème.
Donc le pesto, il est fait avec quel type d'huile, par exemple, pour s'accorder
là,
avec l'ail des
fait,
ours ?
Je l'ai fait avec une huile neutre, une huile de tournesol. Pourquoi ? Parce que l'huile d'olive, ce serait dommage. C'est
oui,
tellement
ça,
fort.
Fruité, avec des notes parfois d'artichaut.
Donc j'ai
même.
Fait huile de tournesol, un petit peu de noisette, un peu de parmesan, et mixé simplement. Et là, vous avez un goût magnifique.
Et là, on se fait des pâtes au pesto d'ail des ours. C'est délicieux.
Exactement.
Pour accompagner un poisson cuit, par exemple, un beau poisson au four. Vous allez chez votre poissonnier ce week-end. Vous achetez un gros poisson plat comme une belle barbue que vous mettez au four. Et c'est ce pesto par-dessus, c'est délicieux, ça.
Et les fleurs, quand vous ne les avez pas fait mariner, vous les laissez éclore et vous les parsemez sur les préparations.
J'ai une question. J'ai personnellement un tout petit peu de mal à digérer l'ail classique. Est-ce que l'ail des ours, vu que c'est une plante, est plus digeste que l'ail classique ?
Alors, je ne suis pas médecin, mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile à manger parce que justement, elle a énormément de vertus pour tous les herboristes et les médecins. Donc, je pense que c'est une plante qui se digère beaucoup mieux.
En tout cas, je viens de croquer dans votre belle fleur d'ail des ours et je peux te dire qu'il n'y a pas de confusion, c'est
non.
Pas du chocolat.
Ah non,
ça,
c'est sûr.
Ça embrouille
le palais. Je vous confirme,
ça
aide à digérer le flan.
C'est excellent pour prévenir des maladies cardiovasculaires.
Exactement.
Hein, donc,
exactement.
On aime ça.
Ça purifie le sang, enfin il y a toutes les vertus, mais nous ce qui nous intéresse c'est surtout la gourmandise.
Et ben, merci bien. Sonia Esgulian, on retrouve votre recette sur europe1.fr.
La purée soit vraiment à 70 degrés environ lorsqu'on y met la pomme fraîche de l'ail.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants.
Alors ce midi, ce sera civet de lapin et pâtes fraîches.
J'adore, nos auditeurs cuisinent. Oh, un beau lapin.
Laurent Mariotte.
Heureux de vous retrouver à table, chers auditeurs, hein, comme tous les samedis de 11h à midi et demi sur Europe 1. Bien manger, savoir ce que nous mangeons, vous le savez, c'est ici que ça se passe. Toujours avec notre chef du quotidien, Sonia Esgulian, et notre expert en vin, Olivier Pouls. Et ça y est, c'est l'heure d'accueillir notre invité, et un jeune chef très talentueux va nous rejoindre aussi dans un instant. Notre invité, les Français l'ont adopté depuis la série Parents, mode d'emploi. Les profs, mine de rien...
Mode d'emploi.
J'ai dit quoi?
Parents, mode d'emploi.
J'ai mode d'emploi, ouais. J'ai mal articulé.
Vous n'articulez pas, monsieur.
Ah pardon, c'est à cause de live.
Ouais, t'as mangé de live.
Les profs, mine de rien, tendre et saignant, ou encore l'embarras du choix. Il aime nous surprendre au cinéma et à la télévision. On l'a même vu interpréter Jacques Chirac et Xavier Dupont de Ligonnès. Il vient de cartonner sur TF1 dans la série Mercato. Il aime la table et les copains. C'est Arnaud Ducret. Bonjour Arnaud.
Il aime la table et les copains, ça va. Bonjour tout le monde. Il aime la table et les copains, ça va ensemble. Alors c'est la première émission de radio que je fais, oui. Où quand l'animateur sort du studio, le mec pue l'ail. Enfin, tu pues pas parce que l'ail ça sent bon. Mais
on embaume l'ail.
Ouais,
je l'ai dit aux auditeurs de Repin, ils sont témoins. J'ai croqué à pleine bouche une fleur d'ail des ours cuisinée par Sonia Esgulian dans une sorte de petit pickles.
D'accord.
Et c'est vrai que c'est ça prolonge. Je crois que le Chanel numéro 5 est moins fort en.
C'est vrai, c'est pas les mêmes effluves que ça laisse derrière vous.
Je disais que ça fonctionnait très très bien avec le flan. Si vous voulez goûter, vous nous dites.
D'accord.
On peut vous faire une petite assiette d'ail des ours.
Alors le flan, vous le connaissez puisque nous étions avec Giovanni Bianco,
mon ami Giovanni.
Du 16e arrondissement, de sa belle boulangerie contemporaine. Et c'est vrai que son flan pâtissier est délicieux.
Il est délicieux. C'est un Giovanni. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps en fait. On s'est rencontrés pendant les vacances. Voilà. Et c'est un passionné. Et j'ai vu un mec plein d'énergie qui se bat. Il n'est pas vieux. Hein, il est tout jeune. Et il se bat pour sa passion qui est la boulangerie qu'il a depuis qu'il est ado. Il a dû vous en parler. Hein, voilà. Mais depuis qu'il est gamin. Et tout d'un coup, il m'a charmé. Je dis, ah ouais, j'adore ce genre de mec.
Et il a eu le prix, effectivement, du meilleur flan de Paris. Et chers auditeurs, si vous n'avez pas écouté cette séquence, notre dossier spécial flan, vous le retrouverez en écoutant le podcast sur europe1.fr. Arnaud Ducret, quelle place tient la cuisine dans votre vie ?
J'aime bien la table. J'aime bien la table avec les copains. Vous disiez ça tout à l'heure. J'adore aller au restaurant. Je suis bien meilleur goûteur que cuisinier. Mais bon,
vous débrouillez quand même.
J'essaye. Petit à petit, ma femme me dit tiens, si on faisait ça. Alors on tente des trucs et des fois je me rate et des fois je me rate pas. Et quand je suis, vous connaissez, hein, quand tu réussis et que les copains ils ont le sourire, tu vois, c'est cool.
Et voilà, ça fait plaisir.
J'en rends des heureux.
Et justement, avec Claire, votre femme, vous êtes à la tête d'une famille recomposée et nombreuse. Vous étiez venu nous le dire la dernière fois.
Oui.
Et vous nous aviez confié que chacun cherchait ses marques à table parce que tout le monde ne mange pas la même chose. Comment ça se passe aujourd'hui ?
Tout le monde ne mange pas la même chose.
Il y a des plats qui rassemblent quand même.
Je disais qu'ils sont, c'est-à-dire que quand tu les emmènes au resto, ils ont pas de goût, mais ils sont curieux. Donc tu te retrouves avec des grosses additions. Mais non, ils sont véritablement, ils ont un bon palais, quoi. Ils ont un joli palais parce que leur maman les a toujours éduqués à goûter plein de choses. Donc ils sont vraiment les triplés. Ils sont beaucoup moins compliqués que mon fils. Ça doit être une erreur de ma part. Il va falloir que je rectifie ce truc-là. Mais
jamais trop tard.
Jamais trop tard.
Quel est votre goût de la semaine, Arnaud Ducret, alors ?
Mon goût de la semaine, carpaccio, en ce moment, l'été arrive, avec les agrumes, il y a les carpaccio de sol, carpaccio de Saint-Jacques, un truc comme ça. C'est mes goûts de la, on va dire, du printemps qui arrive, c'est ça que
du poisson cru.
Ouais,
du poisson cru.
De la dorade, voilà.
Oui, de la dorade, ouais, du ceviche.
Voilà, ceviche, voilà.
On parlait du maquereau tout à l'heure, un maquereau d'une extrême fraîcheur taillé très finement avec un bel assaisonnement, c'est délicieux aussi. C'est l'heure de notre plat du jour. Alors Arnaud Ducret, je vous présente Arthur Ogui, le jeune chef de Rosette à Clichy dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Arthur.
Bonjour.
Merci d'être là.
Enfin, bonjour chef, c'est ça qu'il faut dire. Bonjour chef.
Bonjour chef. Oui, vous avez joué.
Attends, c'est les cuisiniers, c'est les CRS, les mecs. Bonjour chef.
Vous êtes un jeune chef, vous avez 27 ans, vous êtes originaire d'une belle famille italienne, vous êtes né à Aix-en-Provence, vous avez grandi dans les Yvelines, meilleur apprenti de France, premier CDI au Meurice, restaurant gastronomique 2 étoiles à Paris, vous avez été sous-chef chez Substance, une belle table parisienne tenue par Mathias Marc, et vous avez ouvert Rosette avec votre compagne Camille en salle il y a bientôt un an. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé pour Arnaud Ducret qui vient de faire waouh parce que le plat vient d'arriver au sud de Coluche?
Là, l'idée, c'était de préparer un plat assez facilement réalisable.
Je l'ai promis aux éditeurs d'Europe 1, oui.
Donc, sur une cuisse de volaille qu'on désosse, qu'on peut aussi demander à son boucher de le désosser, cuit uniquement sur la peau et après terminer vraiment tout doucement pour avoir quelque chose de très très juteux, très gourmand, sans avoir besoin justement de jus à côté. Les asperges de nos producteurs, on travaille avec des producteurs qui sont dans le sud de l'Essonne, à Chanqueuil, Pauline et Rodolphe. qui ont des produits juste magnifiques. On a eu la chance d'avoir les premières cette semaine. Je pense qu'on a eu les seuls d'ailleurs qu'ils ont eu cette semaine avec l'eau qui est tombée. Et après, pour l'idée de rester dans le même produit, ils ont de la roquette, ils font du mesclin, des épinards. Donc là, c'est un petit condiment à côté avec un petit peu de parmesan, roquette fraîche, petite pointe d'huile d'olive, tout petit peu de vinaigre pour le...
Alors avant midi, j'avais promis une volaille rôtie aux auditeurs d'Europe 1. Vous avez tenu votre parole et cette belle promesse. Alors vous l'avez dit, une cuisse désossée. Ouais. Elle est cuite côté peau simplement au départ. Dans une cocotte, dans une sauteuse, comment vous faites ça?
L'idée là en fait, c'est d'utiliser le moins de matériel possible. Donc vraiment une petite poêle, une cocotte par-dessus pour faire pression, pour vraiment avoir toute la peau sur la coloration. Et après on retourne ça, le temps de le laisser reposer quelques minutes en éteignant le feu à côté.
C'est combien de temps de cuisson tout vous diriez?
Faut compter un petit quart d'heure à peine.
Un petit quart d'heure. Et ouais. Quelle matière grasse vous avez choisi?
Zéro matière grasse.
Zéro que ouais. Le gras de la peau.
Le gras du poulet.
Oh là après, faut prendre
là, c'est
du,
top
faut
parce
prendre
que
du
c'est extrêmement croustillant et ça donne beaucoup, beaucoup de goût à la chair.
Ouais. C'est un peu l'objectif ouais. Ouais, d'avoir quelque chose qui soit hyper gourmand pour faire manger aussi le poulet un peu différemment. Beaucoup enlèvent la peau alors que je trouve ça dommage de pouvoir.
Ah, une peau de poulet
l'enlever.
Grillé, c'est quand même fantastique.
C'est bien
c'est
meilleur.
Un scandale de jeter ça.
Oh bah ça va, j'ai rien fait. On regarde pas comme ça.
Non,
attendez, je suis en train de manger là.
Arnaud Ducré, Thomas Chevalier, c'est votre héros dans Mercato qu'on peut continuer à voir sur TF1+. Ça a été un succès pendant 4 semaines. Il apprécierait votre personnage, ce plat? Il est un peu maladroit, un peu Pierre Richard. Hein,
votre il est un peu Pierre Richard, foncièrement gentil, très passionné. Donc je pense que ouais, il apprécierait. Je pense que Pierre Richard aime bien la bouffe
oui,
c'est
vrai.
Et le vin. Donc si je le compare à Pierre Richard, je pense qu'il aimerait ça. Ouais.
Et vous l'aimez ce plat?
Bien sûr que je l'aime. Il est tout fondant, comme vous disiez, croustillant au-dessus. Ça donne du goût à la chair au milieu. C'est très très bon.
Mais ce sont des asperges aussi. Elles ont été rôties?
C'est juste rôti, ouais, pas de passage à l'eau. Je trouve ça dommage, autant garder avec un petit peu de sel. On garde juste le jus des asperges qui s'en va, ça cuit avec la vapeur des asperges. Ça change un petit peu, je trouve ça dommage de...
C'est 5-6 minutes pour les garder al dente?
8.
D'accord.
Ouais, c'est fou, parce que c'est sur cette taille-là. Ouais,
on
c'est
est précis, hein.
Mais je vois ça, mais alors, vous savez que bon, truc très perso, mais je vais à la boxe, là, juste derrière, je vais m'entraîner à la boxe pendant une heure. Et j'étais en train de, devant la radio, j'étais en train de me dire, waouh, attends, faut que je mange, là, après, là. Et en fait, non, quoi.
Voilà.
En fait, là, c'est, merci beaucoup, hein.
Ça compense.
Ça compense, mais je vais pas trop manger, donc c'est.
Ah ouais,
c'est
parce que si vous allez boxer après ça, vous risquez d'en encaisser un peu plus que d'habitude.
Non, mais ça, c'est parfait pour la boxe. Il y a des protéines, il y a de belles asperges. Et vous représentez bien cette nouvelle génération de chefs qu'on aime mettre en avant ici à cette table, cher Arthur. D'ailleurs, c'est Emmanuel Rubin que je salue, qui fait partie de cette table, qui vous a repéré il y a un petit moment aussi dans ses belles adresses dans le Figaro, ouais. Et qui nous a dit qu'il faut absolument goûter la cuisine d'Arthur. Donc, Arthur, vous la définiriez comment, votre cuisine, autour du marché de la saison? Arthur Auguit, c'est son nom. Rosette,
c'est ça.
À Clichy.
L'idée, c'est de faire découvrir des produits. La carte change tous les jours. On fait un menu dégustation en 5 plats, amuse-bouche, entrée, poisson, viande, dessert à 38 euros. L'idée, c'est de changer la carte le plus régulièrement possible parce que forcément, les prix varient tous les jours. Donc, on peut changer la carte tous les jours, voire à chaque service. Voilà, l'idée, c'est vraiment de venir nous faire confiance, faire un menu dégustation et personne choisit. On ferme les yeux, on nous fait confiance et voilà. Et après, des produits un peu plus haut de gamme à la carte si on a envie de s'amuser aussi. J'ai fait des grandes maisons à côté, j'ai appris à travailler les grands produits, donc ça me permet aussi de pouvoir le faire à côté, mais sans l'imposer, parce que c'est à la carte.
Merci Arthur Auguit, restez avec nous pour cette belle volaille. Et c'est l'heure de jouer avec notre bruit de cuisine, chers auditeurs d'Europe 1. Nous vous offrons une cave à vin, la Sommelière. La Sommelière, c'est la marque française qui accompagne depuis plus de 30 ans, monsieur Ducré, les professionnels de la restauration. Elle vous propose cette petite cave LS18 Silence de 18 bouteilles.
J'ai besoin d'une cave, je le dis comme ça. Hein.
Faible encombrement, destinée aux particuliers, ultra silencieuse, et nous sommes avec Anaïk au téléphone. Bonjour Anaïk.
Bonjour Laurent, bonjour les bons vivants,
bonjour
à ceux qui vous entourent.
Oui, on a de beaux invités, un beau chef et un beau comédien avec nous. Vous nous appelez d'où Anaïk?
Alors, je suis à Rospez, tout près de Perros-Guirec, sur la côte de Granit Rose.
Ah, et qu'est-ce qu'on mange chez vous ce samedi midi alors?
Alors, pour tout vous dire, j'étais en panne de voiture, donc j'ai pas pu partir faire mes courses au marché, donc j'ai pris ce que j'avais.
Dans le congé, dans le placard?
Non, une soupe de légumes.
Très bien.
Carottes, panais, courgettes, voilà. Et après, j'ai fait une tarte aux trois fromages, pareil, avec ce que j'avais sous la main.
Très bien, je peux me garer devant le portail, c'est bon? J'arrive, hein, je vais très vite, moi.
On écoute le bruit de cuisine, Anaïk.
Oui.
Alors.
Attendez, c'est un ballon, les mecs, là. Vous êtes malade.
Non, alors c'est pas le ballon. Une auditrice a proposé un ballon tout à l'heure qu'on aurait rempli de chocolat, par exemple, pour faire des œufs de Pâques. Alors, Anaïk, vous pensez à quoi?
Alors, moi, j'ai pensé à un légume que l'on prépare, donc un chou-fleur que l'on découpe.
Ah, un chou-fleur qui queen.
Voilà.
Bah, malheureusement, ce n'est pas ça. Ah, c'est dommage. Bah,
c'est pas facile. Hein,
je pensais que vous l'aviez. Si, moi je trouve assez facile un peu plastique quand même. Hein. Donc, c'est pas mal du tout ça. Vous pensez à quoi, chers auditeurs d'Europe 1? Eh bien, jouez avec nous. Vous envoyez le mot cuisine par SMS au 739-21. 3 x 75 plus le coût du SMS. Vous bougez pas, Anaïk, on vous envoie un an d'abonnement à ma revue Les Petits Plats. Comme ça, vous n'avez pas tout perdu. D'accord?
Ah, super. Merci beaucoup.
Et on prend votre adresse. Merci, Anaïk, d'avoir joué avec nous.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants, Laurent Mariette.
Bienvenue si vous êtes des nôtres, nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi avec Sonia Esgulion, Olivier Pouls, Arthur Ogui, le chef de Rosette à Clichy, à côté de Paris, et notre invité Arnaud Ducret qui se régale avec cette volaille rôtie, cuisse de poulet désossée, saisie côté peau hein, dans une belle poêle et aplatie avec la cocotte par-dessus. Hein.
Pour donner un petit peu de poids, oui.
Voilà, et du poids et du croustillant.
Et quelle bonne idée d'avoir choisi une cuisse plutôt que du blanc qui est un peu... terne.
Ah bah elle a du goût la cuisse hein. Arnaud.
Oui, ça, oui, elle a du goût. Elle a du goût, la cuisse.
Elle avait.
Chaque fois qu'il y a une phrase un peu ambiguë, c'est moi qui regarde.
Arnaud Ducret, vous avez joué un boucher dans Tendre et Saignant, une comédie de Christopher Thompson en 2020.
Ah oui.
Il vous reste quelque chose, des gestes que vous avez appris, par exemple, pour cette comédie qui est à revoir, vraiment.
Hein. Alors moi, j'ai tendance à jouer les choses et à évacuer très vite derrière.
À oublier.
Mais ouais, c'est vrai. Alors, mais surtout, c'est que quand j'ai préparé le Tendre et Saignant, je servais les gens, j'étais dans la boucherie le matin de Hugo Desnoyers, et en fait, t'as des mecs qui arrivaient qui avaient l'habitude de venir, donc qui regardaient la vitrine, puis tout d'un coup, ils levaient la tête, ils m'ont regardé. Et un mec qui me disait, mais ça paye plus le cinoche, et donc mais ça me ramenait des trucs de gamin quand t'allais à la boucherie. Tu sais, quand t'es enfant, que tu regardes le boucher qui te fait les tranches de jambon et tout. T'as envie de l'imiter. Moi, je le faisais quand j'étais gosse. On a tous fait ça un peu. Et donc, je me revoyais enfant. Il y a un truc très nostalgique sur la boucherie, sur ces métiers, par exemple.
Et vous avez joué aussi dans L'embarras du choix d'Éric Lavenne, que nous saluons, qui nous écoute, qui est un très, très bon cuisinier.
Ouais, il aime la bouffe.
Il aime les bons produits. Il sait très bien cuisiner. Vous avez joué dans son film, un chef cuisinier amoureux d'Alexandra Lamy aussi, donc la table n'est jamais trop loin.
Ben
quand même.
Ouais, je dois inspirer ça certainement, quoi. Mais un grand gaillard comme ça, on se dit le mec il doit aimer la bouffe.
Mais c'est vrai, vous êtes quelqu'un qui aime sa table.
Bah, ceci dit, j'aime ça.
Avec des copains.
Ouais,
voilà.
C'est vraiment très important de la table, d'avoir les copains. C'est vraiment des moments pour moi où je sais que si le matin je me lève, je sais que le soir on a une bouffe avec les potes, ça me met de bonne humeur déjà.
On n'est pas une tête de vegan anorexique. Hein,
non.
Qu'est-ce qu'on boit avec cette belle volaille rôtie et ces asperges, Olivier Pouls?
Alors vous nous avez apporté, notre chef nous a apporté la Mariotta, qui est un vin des Pyrénées, si je ne m'abuse.
Mariotta ?
Exactement.
Ouais, et c'est un vin orange.
C'est un cousin.
Donc vous savez, la vinification du vin orange, en fait, ce sont des raisins blancs vinifiés comme des vins rouges, avec de la macération pelliculaire, ce qui donne cette couleur un peu particulière. Vin nature en plus, parce que je crois que ça c'est non collé, non filtré, sans sulfite ajouté.
Sur le dernier millésime.
Ouais, et c'est vrai que, de toute façon, sur les volailles, et en plus avec des asperges, il faut se tourner vers les blancs, il n'y a même pas de match.
Et ben voilà.
Et ça marche assez bien.
Vous aimez cette rencontre avec l'orange, Arnaud Ducret?
Ouais, c'est très bon. Tu sais que tu vas, comment dire, pas tuer les autres goûts. Enfin, il y a un truc qui se marie très bien avec le plat, évidemment.
Il y a une belle harmonie, effectivement.
Une belle harmonie, quoi, voilà.
Il y a une petite neutralité, en même temps, il y a du goût dans le palais.
Ça, c'est les vins pour moi, c'est les vins du midi, ça, le midi, l'après-midi.
Ouais, des vins de méditation,
Ça, c'est le truc que je vois vraiment avec des potes, tu vois, l'après-midi.
Quel est votre rapport au vin? Vous y prêtez attention? Vous constituez une cave?
Je constitue, je l'ai pas mal vidé, là.
Vous la déconstituez.
Je la déconstitue, ouais. Mais voilà, ça sert à ça, en même temps, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, j'aime le. Ah oui, le vin, pour moi, c'est
des régions de préférence, des cépages, des appellations.
Je dirais Bordeaux. Ma femme adore le Bordeaux, elle est titanique et tout, mais je suis plus Bourgogne. Moi, je pense que j'aime ça. C'est un truc qui me plaît plus. Alors, dans la rondeur.
Écoutez bien, chers auditeurs d'Europe 1, on a une info pour vous. Le printemps s'installe doucement et Olivier Pouls, vous nous avez apporté un vin qui est un de vos coups de cœur pour les beaux jours. Vous êtes bien prévoyant, je vous reconnais bien là.
Ah oui.
Et un vin rouge et léger, vous nous promettez depuis 11h.
Il faut préparer son été, Laurent, c'est pas
absolument
vous que je dirais ça. Hein.
Oui.
Ben oui, à chaque saison, son vin, puisque bon, en hiver, c'est vrai qu'on a envie de vin plutôt capiteux et chaleureux, comme un vieux Bourgogne ou un Châteauneuf-du-Pape. Mais lorsque les températures remontent, et enfin c'est le cas, eh bien place aux fruits, au côté croquant, à la fraîcheur acidulée des fruits rouges. Alors pour tous ceux qui, comme moi, ne veulent pas forcément boire que du rosé quand le thermomètre grimpe, je vous ai donc choisi un vin rouge de la vallée du Rhône, du nord de la vallée du Rhône. C'est un assemblage à grande majorité de Syrah avec une petite touche de Viognier dedans. C'est léger, fruité, vinifié, comme on dit, sur le fruit avec une vinification qu'on appelle semi-carbonique.
Oh, alors là, je vous arrête tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça, la vinification semi-carbonique?
Je vais essayer de vous expliquer. Alors, tout d'abord, le raisin est vendangé à la main, c'est important. Il n'est pas égrappé. Il est placé dans des cuves. Et en fait, avec le poids, les raisins d'en haut écrasent ceux du bas, ce qui provoque la formation de jus dans le fond de la cuve. Sous l'action des levures, eh bien le sucre va fermenter, se transformer en alcool.
On vous suit, oui.
Voilà, ça dégage du CO2 également, qui va progressivement envahir la cuve. C'est pour ça qu'on appelle ça semi-carbonique.
Oui.
Et ensuite, les baies en haut, elles vont commencer, elles aussi, à fermenter, mais de manière intracellulaire, c'est-à-dire à l'intérieur même des grains de raisin. J'espère que je ne vous ai pas perdu, mais pour faire simple, c'est une méthode qu'on trouve dans plusieurs vignobles, dont le Beaujolais, entre autres. Et le but est d'exprimer des vins fruités, gourmands, à boire, on va dire, assez jeune.
Eh bien alors, je pense que la meilleure façon de s'en rendre compte, c'est de le déguster. Vous nous l'avez apporté au studio Coluche.
Voilà.
Le alors, Mariotta.
Je me resserre, parce que j'en avais plus.
Oui, bien sûr. Alors, je vous donne quand même les références. Le vigneron s'appelle Aurélien Chira. Il est dans le nord de la Vallée du Rhône, dans le nord de l'appellation Saint-Joseph, exactement. Sa cuvée s'appelle tout simplement Les Chira, millésime 2023.
De la famille de Jacques Chira, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Et alors, petit point important quand même, c'est 12 degrés d'alcool. À un moment où on n'arrête pas de parler de l'inflation des degrés, on se plaint que ça tape un peu. Là, c'est 12 degrés d'alcool, ça vaut 10 euros. Et franchement, moi, je trouve ça idéal pour les premiers barbecues qu'on va commencer entre copains.
Il y a un petit côté grillé, je dis une bêtise ou
non,
pas,
ce côté un peu fumé, c'est la Syrah du Nord de la Vallée du Rhône. Ce côté un peu fumé, épicé, une petite touche de poivre aussi. Une tonne de poivre blanc, au final, je trouve ça très gourmand.
Arthur Ogui, notre chef du jour du restaurant Rosette à Clichy, vous en pensez quoi?
C'est très bon, le côté de ne pas égrapper les raisins, c'est chouette. Il y a un côté très vert qui vient avoir un côté très léger. Et on peut boire, enfin, on peut manger ça avec du poisson, de la viande, tout le long du repas et traîner dans l'après-midi.
C'est un vin que vous pourriez servir chez vous, ça aussi.
Avec grand plaisir.
Hein, voilà, après ce joli vin orange. Arnaud Ducret, attention, avant d'aller
faire... Attendez, je suis en train de finir mon verre, j'ai pas terminé. Je vous écoute.
Jean Gabin est avec nous jusqu'à midi et demi.
Oh là, mon petit bonhomme.
C'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants. Quel est le goût de votre enfance, Arnaud?
La langue. Langue de bœuf de ma grand-mère. Qu'on faisait sauce piquante et cornichons et tout. Elle nous faisait ça, c'était le plat qu'on avait tous les jours de l'an.
Vous avez le même goût de l'enfance que Josiane Balasco qui était à cette table il n'y a pas très longtemps.
Oh, je suis fier.
Que trouve-t-on toujours dans votre frigo?
Du champagne.
Oui, bah au frais, bien sûr.
Voilà, on va venir.
Je vous le dis, oui, je vous le dis. Il y a toujours du champagne. Voilà, c'est primordial.
Quelqu'un qui sait recevoir. Votre plus beau repas dans le sens inoubliable?
Ah, avec Belmondo. Jean-Paul Belmondo, un déjeuner. On est rentré, je me rappelle, on était. En fait, j'ai appris que Belmondo, Jean-Paul Belmondo, aimait bien Part en mode d'emploi que je faisais sur France 2. Et donc, je suis allé déjeuner avec lui. Il m'a dit, comme il aimait bien les gens, les tables et tout, puis il voulait faire plaisir aux gens parce qu'il savait que ça nous faisait un plaisir énorme, je crois, de le voir. Il avait cette conscience. Et donc, je suis allé avec ma femme là-bas. C'était incroyable. On est rentré. Il y avait la voiture du Cornio qui était garée là, cette Cadillac. Là, je sais plus si c'est le. Je crois que c'est une Cadillac.
Oui, c'est une Cadillac. Dans le Cornio, était, avec
la blanche, enfin la même, qui était garée. Et je me rappelle qu'on a rigolé. Il était fatigué, Jean-Paul, parce qu'il était vraiment, voilà, Et je me souviens que je lui montrais que ma femme faisait de la pole dance. Je raconte cette anecdote parce que c'est vraiment Jean-Paul Belmondo, je pense. Je lui montre, ma femme fait de la pole dance, donc je lui dis, Jean-Paul, ma femme, regarde, c'est ma femme qui fait de la pole dance. Elle fait, ah oui. Je lui montre une vidéo, il me fait, et je lui dis, en déconnant, je lui dis, Jean-Paul, je passe des belles soirées. Et là, il me regarde, il me fait, tu m'étonnes. Et j'ai fait, waouh. Et il était, tellement généreux, enfin c'est une chance incroyable, voilà, Jean-Paul Belmondo.
Le mot de la fin, FIM.
Il en reste?
Ouais, un petit peu.
Le mot de la fin.
Bah, c'est bien.
Ouais, et moi c'est il en reste. Voilà, c'est...
On vous fait un doggy bag.
Voilà, c'est parce que, et c'est surtout c'est la question. Il en reste.
Oui, c'est ça.
Parce que je vais toujours finir le plat, exactement.
Merci Arnaud Ducret.
Merci.
Comme toujours, c'était un bonheur de vous avoir à cette table. Vous avez votre rond de serviette, vous le savez.
J'espère bien, comme Michel Drucker.
Vous revenez quand vous voulez, exactement. Mercato à revoir sur TF1+. Merci Arthur Ogui pour cette belle volaille rôtie. On a retenu l'astuce de la cuisson aplatie côté peau avec une cocotte minutes pour bien faire le poids et pas de matière grasse, celle de la peau suffit. Merci Sonia Esgulian.
Bonne cueillette à tous.
Ah oui, vive l'ail des ours.
Vive l'ail des
Salut
ours.
Monsieur Pouls.
Ouais, je vous en mets deux cartons de côté.
S'il vous plaît, il est très bien. Oui, je veux bien. Merci à mon équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucie Lescourot, la rédaction en chef, avec Marion Sauveur et Anthony.
Mais foutons rien, ton équipe, on les voit là.
Agnès Vaudin.
Garde ça, ils sont derrière la vitre là.
Loïc Vimard à la réalisation. Faites la cuisine, le marché et le reste.
Et l'amour.
Voilà, c'est ça le reste.
Voilà.